9h36, Marc, comment ça va?
Ça va très bien, toi, mon cher.
Super bien. Hey, ça va bien au gouvernement depuis qu'il y a des rentrées d'argent. Hey, le 81,5 millions ramassés en taxes de luxe, là, on l'a senti qu'on avait des meilleurs services gouvernementaux grâce à ça, hein, quand même. Qu'est-ce que t'en dis?
Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que c'est à partir de 40 000 $
ben
tu
oui.
fais payer non pas une taxe de luxe, mais une immatriculation de luxe. Et ça, c'est la petite
passe-passe. Oui, on va le dire comme ça.
Parce que
hey, depuis 1998 que c'est comme ça, Marc.
Oui, mais au fédéral, tu as une taxe de luxe. Donc, les voitures qui valent plus de 100 000 $ tu as un pourcentage sur l'excédent qui est payé comme une taxe de luxe. Tu me diras, si tu payes ton char 150 000, ça se peut que tu aies effectivement une taxe de luxe. Là, c'est assez raisonnable.
Pouf!
Mais à 40 000 $ quand on sait que le prix moyen d'un véhicule vendu au Canada actuellement est de 63 000
ça veut dire que tous les chars sont taxés.
Tous les chars sont taxés sur les immatriculations année.
Ouais.
Là, le gouvernement nous dit, écoutez, on a changé ça le 1er janvier prochain. Ça veut dire qu'encore toute l'année, ils vont ramasser l'argent sur les taxes de luxe de voitures à 43 000. Attends, l'année prochaine, ils vont donc augmenter ça à 62 500. Mais là, tu n'auras plus l'exemption pour les autos électriques. Ben non, parce qu'ils donneront à peu près plus d'argent pour acheter des voitures électriques. Actuellement, ça aurait été niaiseux de dire on va te charger pour des voitures électriques, puis en même temps, on va te donner 5000 $ pour en acheter une. Mais là, comme ce programme-là achève, ben, l'an prochain, les voitures électriques vont aussi être considérées comme des voitures de luxe.
Donc, ça va dépasser le 100 millions nécessairement à la rentrée d'argent. Là.
Totalement.
Là, c'est 81, ben, ça va défoncer ça. C'est mais comme je te dis, peut-être que les aînés auront enfin le deuxième bain par semaine. Non, OK, je te laisse parler. Là. Je suis un rêveur. Hein? I'm a dreamer, ouais, comme Ozzy.
Ouais, là, c'est un peu trop, à mon avis. Là. Il y a des affaires que tu as vues ce matin que je ne sais pas
ouais,
c'est
peut-être.
Quoi.
OK, c'est bon. Hey, les questions, continuez d'écrire vos questions en passant. Les questions sont bonnes. Ouais. Let's go, mon Marc.
Vite, juste un petit mot sur la position de Donald Trump qui a annulé les normes environnementales pour les constructeurs automobiles au cours des derniers jours.
Ben oui, c'est quel délire qu'on entend dans les médias.
Ah, mais
c'est la fin, la terre va brûler, c'est polluant. Qu'est-ce que t'en dis, Marc?
C'est le zoo le plus absolu et ça va être absolument inapplicable. Ce qu'ils viennent de faire, c'est tellement de diminuer la puissance des États-Unis. Tu sais, actuellement, là, c'est les États-Unis qui dirigeaient, qui disaient, regardez, les normes, ça va être ça. C'est nous autres qui les dictent, puis ça va être comme ça, puis nos fabricants vont faire ça. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de s'isoler. C'est le seul pays au monde qui n'a plus de normes. Ça veut dire que
quand tu dis plus de normes, c'est aucune norme. Donne-moi des exemples. Quelqu'un, par exemple, qui va full diesel, qui boucane,
il n'y a pas
de sanction.
Le plus bel exemple, en fait, c'était ce qu'on appelait la norme CAFE, qui était le Corporate Average Fuel Consumption. Ce que c'est, en fait, c'est qu'un manufacturier devait fournir une flotte qui avait une capacité moyenne de consommation de 5,8 litres au 100, mettons, puis ça allait en diminuant au cours des années. Ça n'existe plus. Ça veut dire qu'ils ne sont plus tenus d'avoir des normes d'émissions polluantes. C'est fini. Ils n'en ont plus.
Donc, il y a des fabricants qui vont se lâcher lousse, mais ces véhicules-là ne seront pas admissibles à la vente au Canada?
C'est pas admissible à la vente nulle part. Les États-Unis sont le seul pays où il n'y a plus de normes. Alors là, c'est le zoo, parce qu'il y a des groupes environnementaux, évidemment, on s'y attend, qui poursuivent le gouvernement. Il y a des manufacturiers qui commencent à vouloir s'organiser pour aller faire des pressions auprès du gouvernement pour dire non, on les veut, les normes, parce que nos chars ne passeront plus nulle part.
C'était vieux, ces normes-là, Marc.
Depuis 60,
ça date des
années 60. Avec
oui.
Le pacte de l'auto, c'est pas compliqué, ça a commencé au pacte de l'auto en 64.
C'est pour ça que les autos polluent moins aujourd'hui.
Et c'est pour ça que quand tu achetais une Toyota Corolla en 1998, elle faisait 12 litres au 100, puis aujourd'hui, on en fait 4,5.
Oui.
T'sais, fait que ça n'a aucun sens comme décision. Et le point, en fait, c'est que c'est pas moi, comme supposé expert, qui le dit. C'est toute l'industrie eux-mêmes qui disent on ne peut pas vivre sans ces normes-là parce qu'on n'est plus conforme nulle part. Alors, on va être obligé de toute façon d'en faire des voitures avec une consommation diminuée. Et là, ben, ça va être le zoo, parce qu'aux États-Unis, maintenant, ça ouvre la porte à chacun des États pour déterminer ses propres normes.
Vas-y, Marc, je m'en allais là. Il y a un liveur qui m'a écrit. Il dit, par contre, la Californie conserve ses propres normes. Tandis quoi? Comment on va gérer ça?
C'est exactement ça le problème. C'est que là, ça va être l'enfer. Alors là, on va être obligé de voir quelle est la norme la plus sévère quelque part. Puis les manufacturiers vont être obligés volontairement, entre guillemets, de s'imposer ces propres normes-là. Ça va être l'enfer. Et au Canada, on continue d'avoir les normes. Donc, ça veut dire que les voitures fabriquées chez nous vont devoir continuer de répondre aux mêmes normes. Bref, quand on disait là, la solution à au monde de l'automobile, c'est d'avoir une norme universelle partout, Asie, Europe, Amérique, ben là, on vient de faire exactement le contraire du côté des États-Unis. On vient de se tirer dans le pied et de s'isoler. Honnêtement, ça ne restera pas comme ça. Je peux te mettre ma main au feu.
Pourquoi il fait ça? C'est bon, on le sait qu'il polarise. Puis
question
regarde,
de contrôle.
On va bloquer le pont. On repart, t'as repéré à Coupe Stanley. La Chine va te la voler. Je veux dire, disons qu'il n'y a pas eu les deux dernières semaines, ça a été tough. Là.
Ouais.
Pourquoi il fait ça?
Ben parce que la star actuellement, c'est Gavin Newsom en Californie qui a ses propres normes.
En fait, il veut l'écœurer.
Qui a réussi à être le big boss de tout ce programme environnemental-là. Fait que lui, il dit, ben, gars, c'est moi le boss. On va décider comme ça. Et ça donne au moment où les constructeurs automobiles, au départ, voulaient que les normes soient un peu réduites. Ils ne sont pas blancs comme neige là-dedans. Là. Hein, eux autres, ils étaient contents que ça leur coûte un peu moins cher, que les normes soient moins sévères. Surtout qu'ils viennent d'annoncer qu'en globalement, ils ont perdu 60 milliards au cours de la dernière année avec leur implication, entre autres, en électrification, les constructeurs américains. Fait que là, ils disaient, nous autres, il faut ralentir là-dessus. Fait qu'il fallait trouver un compromis. Mais Trump, n'étant pas un homme de compromis, a décidé qu'il y allait en ligne. Puis, ben là, je ne commenterai pas là-dessus au risque de voir arriver des messieurs avec des menottes. Mais, donc, effectivement, donc il a décidé qu'il allait all-in, puis il abandonne ça, et ça va devenir le bordel le plus complet. Donc, ça ne pourra pas s'appliquer. Moi, je gagerai un vieux deux que ça va changer rapidement.
OK. Dan, es-tu prêt pour les questions? Il y en a quand même des bonnes.
Oui, absolument.
Vas-y, je te laisse aller, mon Dan.
La première question, c'est lui, Marc, que je fais entre 80 000 et 90 000 km par année. Ça, tu sais ce que ça veut dire, hein? C'est Nathalie à Chicoutimi, Martine des Maritimes, puis Manon à Saint-Zénon. Il veut un véhicule 100 %. Je ne veux pas de voiture 100 % électrique. Bon, je vais m'en lire, hein? Parce que je fais trop de kilomètres. Quel est le véhicule le plus fiable, consommation et le plus faible coût d'entretien? Je veux le garder le plus longtemps possible. J'ai 10 000 piastres à peu près.
Oh, mon Dieu. Écoute.
Bon succès?
Oui, bon succès. Moi, je vous dirais, essayez de vous trouver un hybride qui date de quelques années, genre une vieille Prius, quelque chose comme ça. On a beau dire ce qu'on voudra, c'est des véhicules qui sont ultra fiables, c'est des véhicules qui sont ultra économiques. Alors, allez vous trouver une vieille Prius, ça va être la meilleure solution. Mais on s'entend pour dire qu'avec un véhicule que vous allez payer 10 000 $ que vous faites 90 000 km par année, vous ne l'aurez pas bien des années.
Non, c'est ça. C'est...
je vais saluer Marc Roussin qui nous écoute peut-être parce que l'extrait, tu l'as passé dans ton bloc conseil. Il s'est débarrassé de son char après 16 ans.
Oui, une Toyota Matrix.
Oui, c'est une Matrix. C'est rare quand même garder un char 16 ans à part Doom Dumas, là.
Ben, écoutez, oui, quand c'est la même personne. Oui, mais Doom Dumas.
Oui.
C'est Dom Dumont. En plus, Dom Dumont, il suggère d'autres choses puis il rachète la même affaire.
Oui, c'est arrivé.
Mais tu sais quoi, c'est brillant. C'est nous autres qui est un peu épais de voir un char neuf.
Je le sais. Mais 16 ans, c'est quasiment extrême. Ouais,
16 ans, c'est quelque chose.
Mais mon fils avait acheté, on y avait acheté une Mazda 3 2010 qu'on a vendue il y a 2 ans à une copine. Il l'a encore.
Tu vois, c'est des super véhicules.
Elle est encore là.
Puis à 16 ans, le char a l'âge de consentir.
C'est ça, exactement. Mais il vote pas.
Est-ce que Marc est au courant des problèmes avec les chargeurs d'auto électriques Ford, le mien Boucan?
Non, en fait, c'est pas un problème majeur. C'est un problème qui est survenu à quelques reprises, effectivement. Mais c'est souvent à cause des installations. C'est pas nécessairement le chargeur lui-même. Bon, je vous donne un exemple. Moi, chez nous, j'ai une borne. Et avec certains véhicules, il est arrivé qu'elle ne fonctionnait pas très bien parce que la façon dont le logiciel était fait était moins compatible. Même chose, écoutez, avant que j'aie une borne, j'avais juste une prise 110. Et il y a des voitures qui ne se chargeaient pas sur la prise 110 à cause de mon installation électrique. Fait que souvent, ce n'est pas la voiture elle-même, c'est l'installation qu'il faut faire vérifier. C'est la première chose à faire.
Bonjour, Marc. Ford a retiré le Ford Escape, qui était l'entrée de gamme.
Oui.
Ça se vendait pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Qu'est-ce qui arrive avec Ford? Ça va être quoi maintenant, l'entrée de gamme? Est-ce que ça va vraiment être le Bronco?
En fait, c'est le Bronco Sport, qui est pour le moment l'entrée de gamme, effectivement. Ford a annoncé la semaine passée qu'il y aurait 5 nouveaux modèles d'ici 2028. Donc, des modèles qui seraient supposément partiellement électriques, d'autres pas du tout. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on nous promet, et je répète, on nous promet une camionnette en bas de 30 000 $ pour Ford, une petite camionnette, plus petite que le Maverick.
OK. Bonjour, Marc. J'ai un Pacifica 2022 hybride. On vient de changer la transmission sur garantie. Je la garde ou je pense à vendre?
Ben, vous avez une transmission neuve.
Flambant.
C'était ça le principal problème, en fait.
Je l'aime, ce véhicule-là, moi.
Ah, moi aussi, j'aime beaucoup la Pacifica hybride. Je la trouve belle. Deuxièmement, elle a toujours été assez efficace. Son problème, c'était effectivement la transmission. Si vous avez une transmission neuve, ben, écoutez, je vois pas pourquoi vous vous en débarrasseriez.
Ma blonde veut changer de char. Elle aimerait avoir un Subaru. Je sais pas pourquoi. Un Subaru avec les filles, ça marche. Ça, c'est tempête. Subaru.
Les filles puis les gauchistes.
Subaru,
ça, c'est un autre dossier.
2024, le moteur 2.5 litres, est-ce que c'est une bonne voiture?
Oui, absolument. Il faut savoir que chez Subaru, ce sont des voitures qui sont fiables, qui sont solides, qui sont durables.
Est-ce que c'est les meilleures voitures l'hiver? Oui. Ça a l'air tough l'hiver.
Mais, moi, là, si tu veux faire plaisir à ma femme, tu y mets une Subaru dans les mains. Non. Pour le plaisir de conduire, tu y mets une BMW, mais pour la sécurité, elle a y conduire en hiver. Il y a un centimètre de neige par capote. Imagine Subaru dans les mains, elle est super heureuse.
C'est
elle
pas tuable.
En sécurité, c'est solide. Et voyez, moi, ce matin, je me suis emmené avec le nouveau Outback. Là, c'est ça qu'on va présenter à Virage cette semaine. Il n'est pas beau, on va se le dire. Là. Le département de design de Subaru, parfois, a des drôles d'idées, mais comme mécaniquement, c'est toute une voiture. Alors, oui, allez-y, sans problème. C'est pas un problème. Petit bémol, cependant, rappelez-vous qu'une Subaru, ça coûte un petit peu plus cher d'entretien que les autres, pour une raison physique. Et là, je sais que les gens de Subaru n'aiment pas ça. Rappelez-vous que ce sont des pistons à plat. C'est pas des pistons debout. Inévitablement, il y a plus de frottement, donc il faut s'assurer qu'on est toujours bien lubrifié puis que les changements d'huile sont faits puis qu'il faut vraiment être vigilant sur l'entretien chez un Subaru.
Première fois que j'entends parler de ça.
Et, ben, c'est parce que c'est les fameux moteurs, les moteurs qu'on appelle boxer, là. C'est des moteurs où les pistons sont couchés de côté. Fait qu'évidemment, ça nécessite plus de lubrification que de
l'eau. Dernière question, je vais acheter un Nissan Kick 2023. C'est une deuxième voiture, elle a 35 000 kilos. T'en penses quoi, mon Marc?
Ah oui, c'est le petit Kick, c'est le fun. C'est pas, écoutez, si c'est une voiture urbaine, il n'y a aucun souci. On le vend maintenant sous le nom Kicksplay. Donc, c'est la version d'entrée de gamme. C'est vraiment pas cher. Ça fait la job. OK, on s'entend, là, c'est bien fait, puis vous allez le garder pour ça. Si vous voulez aller à l'extérieur de la ville, vous allez peut-être trouver ça un peu tirant, mais pour le reste, c'est un bon véhicule.
Parfait.
Merci beaucoup, Marc. Merci.
Ça fait plaisir.
Merci. Je sais que t'es pas un tripeux de hockey, mais je pose la question à Dan avant d'aller à la pause.
Attends un peu, j'ai des nouvelles de hockey, là, moi.
Ah oui? Ah oui? Ben vas-y, je t'écoute.
La Slovaquie s'est faite l'Allemagne de façon magistrale. Magistrale.
Donc, ils vont jouer contre...
Contre le gagnant de l'équipe du match qu'on va suivre, qui commence dans une heure à peu près entre le Canada et la République tchèque.
Je reviens sur le char de Marc Roussin, je t'en ai, là, mais quand, quand Marc l'a acheté, Marc Roussin l'a acheté, quels étaient les cinq premiers compteurs du Canadien?
Eh, mon Dieu, il y a 16 ans.
Je dirais Junta.
Oui, à date, t'es bien parti. Hey, c'est tough, c'est une question tough, je m'amuse.
C'était quoi donc? Calabrini?
Camilleri.
Camilleri, c'est ça.
Colique, Dan, oui.
J'ajouterais...
Scott qui, donc?
Scott Gomez.
Oui. Mais le premier, c'est...
Oh, là, tu m'as...
Col roulé.
Plek Alex?
Oui.
OK. Mais il m'en manque un, là. On va mettre un défenseur, mettons Sheldon Surrey.
Mettons... non, un Québécois. Marc-André Bergeron.
Hey, salut Marc-André, il fait longtemps. Ouais, Livers, c'est Marc-André.
Ah oui? Ouais. Ben regarde, salut. Salut. salut Marc.
Vous êtes conscient que là, moi, j'aurais pu vous parler de Chad il y a 16 ans, mais parler d'hockey il y a
16
ans.
Non, je sais.
Voilà, c'est plus tough.
C'est tough, effectivement.
Et Alain qui était dans le net, entre autres. Alors, voilà.